Masque tombe sur RCN.
Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Kent, un chanteur, écrivain et illustrateur, dont le dernier EP Scherzando Extra vient de sortir.
RCN, Les Masques tombent, Elisa Gautron.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir, même si vous ne pouvez pas être là physiquement, du coup. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ?
Ah ben oui, je m'appelle Kent, c'est mon pseudonyme, et je suis un artiste polyvalent, j'aime dire, puisque je fais de la musique, je suis auteur, compositeur, interprète, et je fais aussi de la bande dessinée, et ça m'est arrivé d'écrire des livres, des romans, et puis autre chose aussi.
D'accord, et vous chantez quel style de musique ?
Je chante ce qu'on appelle de la chanson, puisque c'est il y a des textes et puis des mélodies, voilà. Mais j'ai commencé avec dans ma jeunesse dans un groupe de rock qui s'appelait Starshooter, qui a fait partie de l'explosion punk en France et voilà. Puis après qui a évolué. Et moi j'ai fait une carrière solo ensuite où je me suis consacré effectivement à chanter ce qui me passait par la tête, j'aime dire, parce que la chanson française c'est limité quoi. J'aime autant la chanson française que le rock et c'est les deux moyens d'expression que je maîtrise le mieux.
D'accord. Donc, au collège, vous montez un groupe du coup qui s'appelle Starshooter. Comment ça s'est passé, la création de ce groupe ?
Oh ben, comme ça se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'on est d'abord une bande de copains qui s'ennuient pendant les loisirs et puis qui décident de monter un groupe en se distribuant les rôles avant même de savoir jouer, quoi. C'est-à-dire qu'on a décidé de monter un groupe, tout juste si on n'avait pas le nom avant de savoir jouer nos instruments, quoi. Mm-hmm. Et puis, on a appris sur le tas. Et au départ, c'était pour s'amuser, pour jouer pour les copains. Et puis après, ça devient un peu plus sérieux au fur et à mesure que la fin des études arrive et on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans la vie active ? Est-ce que c'est pas mieux d'insister pour devenir un musicien professionnel plutôt que de faire un métier qui ne nous plaît pas ?
Mm-hmm. Oui, parce qu'après, vous avez sorti du coup 4 albums au nom du groupe.
Ouais.
Et après, vous avez enchaîné avec une tournée de 5 ans du coup en France.
Tout ça s'est fait en même temps. En fait, c'est à la fois très, très court et très dense, quoi. C'est-à-dire que sans compter les années lycée où je vous dis on jouait pour les copains, à partir du moment où on a commencé à faire des concerts professionnels ou à gagner notre vie avec ça, l'aventure Starshooter, elle a duré 5 ans, tout et pour tout, mais 5 ans où on a fait que tourner et puis effectivement sortir des disques, des albums, des 45 tours comme ça se faisait à l'époque, donc on n'avait pas trop le temps de s'ennuyer, on va dire, ni même de prendre des vacances, d'ailleurs même le mot vacances ne nous intéressait pas.
Oui, vous faisiez beaucoup de dates, du coup.
Oui, puis c'était plaisant, c'était amusant quand même. On réalisait un rêve. Hein. On était quand même, on a démarré, professionnellement parlant, on avait 20 ans à peine. Mm-hmm. Et puis pendant de 20 à 25 ans, on a fait vraiment, on a réalisé notre rêve, quoi. Voilà, ce qui était à l'époque. C'est difficile à resituer dans le contexte parce qu'à l'époque, c'était quelque chose d'impensable qu'on puisse gagner sa vie à faire ce genre de musique. C'était un truc, c'était délirant, quoi. Aujourd'hui, c'est parfaitement admis. Tout le monde connaît quelqu'un qui vit de sa musique en faisant, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit de la chanson, du rap, ou compagnie, surtout du rap, puisque c'est le rap qui rapporte le plus d'argent en ce moment, quoi. Mais à l'époque, c'était totalement inédit, voilà. Oui.
Vous aviez commencé à vivre du coup de la musique à partir de ce moment-là.
Oui, très vite. On s'est vite structuré. On savait qu'il fallait le faire. On n'était pas des branleurs, on va dire, à ce niveau-là. On avait un manager qui savait bien mener les affaires et puis donc on a su très vite, vivre de notre musique, nous les musiciens, et puis une bande de copains autour de nous qui nous servaient de techniciens entre guillemets en quelque sorte. Mmh. Quoi. On était en fait, le groupe, au sens large, on était une dizaine de potes à vivre de la musique que rapportait le groupe. Et c'était plutôt sympa.
D'accord. Et de quelle personne y était composé ce groupe ? Quel musicien il y avait
C'est, comme je disais, c'était des lycéens d'abord. C'est-à-dire que, on avait tous des pseudonymes à l'époque parce que justement on prenait pas ça au sérieux. Donc moi c'est de là que vient mon pseudonyme de Kent. J'étais le chanteur. Après à la guitare il y avait un guitariste qui s'appelait Jello, donc aussi un autre pseudonyme. Le bassiste s'appelait Mickey, le batteur s'appelait Phil Pressing. Voilà.
D'accord.
On n'a jamais donné nos vrais noms. Parce que c'était justement, on prenait pas ça au sérieux au départ, quoi. C'est après qu'on nous a pris au sérieux, mais nous, je sais pas si on s'est jamais pris au sérieux.
D'accord. Et du coup, après ce groupe de musique, vous êtes séparés du coup en 1982. Et après, vous avez arrêté la musique pour sortir des BD.
C'est pas aussi simple que ça parce que je faisais déjà la bande dessinée à l'époque du groupe de Star Shooter. En fait, je commençais à porter mes dessins à Paris à une revue qui était la revue pour moi dans laquelle je voulais travailler, qui s'appelait Metal Hurlant. Mm-hmm. Et j'ai commencé à publier dans Metal Hurlant au moment où le groupe a commencé à marcher aussi en même temps. Alors, le groupe a fait plus parler de lui que mes bandes dessinées, mais donc j'ai dessiné tout le temps où le groupe a existé. Et quand le groupe s'est séparé, je me suis un peu plus consacré au dessin, c'est vrai, quoi. À ce moment-là, j'ai fait plus de dessins pour Metal Hurlant la maison d'édition qui éditait Metal Hurlant, c'est-à-dire les humanoïdes associés. Mm-hmm. Et je me suis aussi mis à travailler avec Futuropolis, qui à l'époque était une petite boîte de bande dessinée très, très active et aussi très plaisante. C'était une équipe aussi novatrice que les humanoïdes associés. Donc c'était, pour moi, c'était les deux pôles avec qui ça m'intéressait de travailler. Et donc de 82 en gros à 86-7, j'ai publié 6 albums chez ces deux éditeurs, jusqu'au moment où j'ai décidé de refaire un peu plus sérieusement de la musique. Parce que du côté de la bande dessinée, ça battait un peu de l'aile, quoi. La revue Metal Hurlant disparaissait, Futuropolis était racheté par Gallimard, ça changeait de personnel et ça m'intéressait plus trop de continuer avec les nouvelles personnes.
Et du coup, vous avez sorti deux albums quelques années plus tard, du coup, À nos amours, puis Tous les hommes, qui a remis au goût du jour la musique française dite traditionnelle.
Oui, ça c'était marrant parce que c'était totalement ringard aussi à l'époque. Moi-même à l'époque de Star Shooter, je trouvais que la chanson française c'était ringard. Ça faisait partie de ma culture au fond de moi inconsciemment. J'avais ça en moi et quand le groupe s'est arrêté avec Star Shooter, une des raisons aussi pour moi c'était que en fait j'en avais un peu ras-le-bol du rock que je trouvais un peu simpliste et dont j'avais fait le tour, quoi. Je trouvais qu'il y avait des grosses ficelles dans le rock, que le public était un peu trop moutonnier dans les concerts et ça m'avait éloigné de ça, quoi. Et je me suis intéressé à d'autres choses, à d'autres musiques, et notamment ce qui est revenu, qui est remonté du fond de moi, quoi. C'est effectivement cette chanson française que j'avais renier et qui faisait partie de mon inconscient. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai pas été le seul parce que ça a donné lieu à un mouvement dans lequel je me suis retrouvé quelques années plus tard, quoi, avec des groupes comme les Négresses Vertes, Pigalle, des gens comme Thomas Fersen, je ne saurais plus citer qui d'autre encore, quoi, qui ont remis au goût du jour cet aspect-là de la chanson.
D'accord. On va faire une petite pause.
Elle plane plus haut que les tours de Shanghai. Elle a les nuages en bataille. Quand tu l'embrasses, tu défailles. Ta liberté, tu la crains presque autant que tu l'aimes. Elle lâche la proie pour la bohème. Quand tu la suis, tu n'es plus le même. Ta liberté, tu la veux belle et consentante, pas une sauvage délinquante qui t'entraînerait sur la mauvaise pente. Ta liberté, tu la voudrais docile et servile, un peu comme un écran tactile. Tu la prends pour une imbécile, ta liberté. Tu la caresses à peine, tu n'oses pas déranger l'ordre des choses. C'est pourtant ce qu'elle te propose, ta liberté. Tu redoutes d'aller où elle t'emmène. Quelque chose en elle te gêne. Tu as peur qu'elle te malmène, ta liberté. Tu la veux belle et consentante, pas une sauvage, une délinquante qui t'entraînerait sur la mauvaise pente, ta liberté. Voudrais docile et servile, un peu comme un écran tactile. Tu la prends pour une imbécile, ta liberté.
C'était Ta Liberté, extrait de Scherzando Express.
Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN.
Alors, pour continuer du coup sur un peu votre biographie, en 2015, il y a un événement marquant. Vous rencontrez Tahiti Boy lors d'un concert au 104 à Paris, après la sortie de l'intégrale de vos albums.
C'était un intégral de mes albums studio sortis chez Universal et pour marquer le coup, j'avais décidé de faire un concert où je jouais le même soir en intégralité les deux albums les plus opposés de ma carrière, soit Tous les hommes, qui était justement un album dans le style dont on parlait tout à l'heure, le renouveau de la chanson française. Et puis un autre intitulé Métropolitain, qui était un album que j'ai quasiment improvisé dans la mouvance électro qui est arrivée en France, enfin qui a explosé en France dans les années 90, et que j'adorais, quoi. C'était marrant parce qu'à l'époque, effectivement, je pratiquais surtout de la chanson, mais quand j'ai vu arriver ces groupes et je suis allé dans des soirées, j'ai trouvé cette musique totalement excitante et ça m'a donné envie, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que je me suis mis à écrire des textes, et j'ai eu des idées de musique me sont venues pendant ces concerts-là. Et j'ai improvisé un album qui s'appelait Métropolitain, donc très électro. Et ce soir-là, à Paris, dans la salle de 104, j'ai joué à la fois mon disque Tous les hommes en piano-voix, simplement, et puis de l'autre, après, Métropolitain, avec Tahiti Boy, dont je venais faire la connaissance, et qui s'est chargé de faire les arrangements pour Métropolitain sur scène.
D'accord, donc vous le rencontrez, vous jouez Métropolitain du coup sur scène avec lui, et ensuite il va réaliser du coup la grande illusion.
Oui, parce que voilà, on a fait ce concert au 104, on l'a rejoué deuxième ou troisième fois, je ne sais plus, en province. Et puis je me rappelle, on était dans le camion en retour de Paris quand je lui ai proposé ça, parce que je trouvais que je m'entendais bien avec lui, je trouvais qu'il avait des bonnes idées et j'avais des nouvelles chansons, alors je lui ai proposé de réaliser mon album suivant, voilà, qui a donné La Grande Illusion.
Qui a du coup marqué les 40 ans du punk rock et aussi les 40 ans de votre carrière du coup.
Bah, surtout les 40 ans de ma carrière, parce qu'on était, on était loin du punk rock à ce moment-là, quoi, mais c'est vrai que ça tombait juste à... on aime bien les anniversaires en ce moment, même un peu trop, j'ai l'impression. On ne peut pas s'empêcher de mettre une date qui corresponde symboliquement à quelque chose. Et La Grande Illusion est sortie 40 ans après mes débuts. Et donc la tournée de La Grande Illusion a un peu subi cette actu, quoi, en quelque sorte. Mm-hmm. On a autant parlé de mon album que de mes 40 ans de carrière. Bon, pourquoi pas, hein, je ne renie pas d'avoir eu 40 ans de carrière à ce moment-là. C'est juste marrant de voir à quel point on est attaché aux dates ces derniers temps, quoi.
Oui, parce que c'est pas rien quand même, 40 ans de carrière.
Oui, c'est pas mal, mais je sais que auparavant, moi, quand j'ai démarré, il y avait des chanteurs qui avaient 40 ans de carrière et on s'en foutait qu'ils avaient 40 ans. Ils les cachaient presque même d'ailleurs, parce que ça faisait vieux routard. Alors que maintenant, ça fait justement, c'est moins péjoratif, on va dire. On dit waouh, il tient le coup. C'est peut-être aussi du fait que c'est compliqué de faire carrière aujourd'hui. C'est-à-dire que des jeunes personnes qui démarrent maintenant dans la musique, c'est pas dit qu'elles puissent vivre de leur musique pendant 40 ans dans les 40 prochaines années, ça c'est clair.
Oui, oui, ça c'est sûr. Et du coup, l'année suivante, vous sortez La Grande Effusion pour marquer aussi cet anniversaire.
Oui, c'est ça. C'est la maison de disques que je crois qu'il a décidé, parce que justement ça marquait le coup, puis que le répertoire de scène englobait pas mal de morceaux anciens, ce qui faisait que ça faisait un panorama de ma carrière en quelque sorte. J'avais repris un ou deux morceaux de Star Shooter, des morceaux du début de ma carrière, plus les derniers morceaux. Donc ça faisait voilà un éventail plus qu'un panorama.
D'accord. On va avancer un petit peu, du coup, pour arriver aux années Covid, où vous alliez, du coup, prendre une année sabbatique qui a été interrompue, du coup, par l'arrivée de l'épidémie.
Bah, disons qu'elle elle a pas été interrompue, elle a été accentuée, on va dire. Parce que 2019 avait été une grosse année pour moi, donc il y avait eu cette fin de tournée avec la sortie de l'album La Grande Effusion, l'album public. Je sortais aussi mon dernier roman, Peine perdue, chez l'éditeur Le Dilettante, et une bande dessinée consacrée à Elvis Presley. Mmh. Et tout ça dans la même année, j'avoue que j'étais un peu saturé de travail. Et puis j'avais envie de retrouver ma femme qui a eu des problèmes de santé aussi, on avait envie de se retrouver ensemble et de penser à autre chose. Donc 2020 c'était libre, je n'avais aucun emploi du temps. Mm-hmm. Mais quand je disais que j'avais aucun emploi du temps, c'était aussi pour improviser des voyages, pour improviser des choses, quoi. Mm-hmm. Or le Covid m'a condamné, comme toute la population, à rester chez moi en quelque sorte. Et comme une bonne partie de la population bien lotie, on va dire, les premiers temps n'étaient pas désagréables, puisque j'habite au bord de la Marne, j'ai un jardin, il faisait beau, c'était facile à vivre, quoi. Et je me suis laissé porter par ça, je me suis consacré effectivement à découvrir le chant des oiseaux, parce qu'à ce moment-là, le monde était très silencieux, c'était un bon moment, et quand le deuxième confinement est arrivé, puis le troisième, là j'étais un peu bloqué, quoi. Dans le premier confinement, je me souviens que j'avais fait, chaque soir je chantais une chanson pour Facebook, pour les gens qui me suivaient, pour justement leur tenir compagnie en quelque sorte. Mais à ce moment-là, je savais même pas que ça allait durer si longtemps, personne ne le savait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait de 15 jours, 3 semaines de confinement, alors qu'en fait ça a duré 55 jours, donc... Tous les soirs, pendant 55 jours, j'ai proposé une chanson sur Facebook. C'était un feuilleton qui durait un peu trop à mon goût à la fin. On passait comme ça, quoi. Et puis voilà, puis quand les autres confinements sont arrivés, j'ai commencé à tourner en rond, enfin dans ma tête. Je pense en chansons, donc je me suis mis à écrire des nouvelles chansons, alors que c'était vraiment pas prévu. Je pensais pas faire ça cette année-là, quoi. Et j'ai écrit des nouvelles chansons, et puis j'ai eu... envie de les proposer publiquement. Donc, voilà, j'ai d'abord contacté les deux musiciens avec qui je m'entendais bien à ce moment-là et avec qui j'avais envie de faire quelque chose. Mon pianiste Marc Haussmann, qui m'accompagnait déjà depuis pas mal d'années, et puis Alice Animal, que j'avais découvert très peu de temps auparavant, qui a fait ma première partie en tournée, avec qui je m'entendais très bien. Et j'aurais dit, si je fais un album, est-ce que vous êtes partant pour le faire avec moi? Et ils étaient partants, et ça s'est fait comme ça.
Oui, et c'est ce qui a donné, du coup, Scherzando Express.
C'est ça.
Qui est sorti, en septembre de l'année dernière.
Scherzando, mais c'était vraiment... un album quasi improvisé, quoi. C'était, il était, je le répète, il n'était pas prévu, quoi. J'avais pas de, je pensais même m'arrêter, donc voilà.
D'accord. Et du coup, c'est grâce au confinement que vous vous êtes remis à écrire de la musique et à sortir du coup un nouvel album.
Bah, c'est de découvrir surtout que quand je suis, si on m'enferme quelque part et que je peux rien faire d'autre, je fais de la musique. Mm-hmm. Voilà, je peux aussi faire du dessin, mais là c'est un peu plus. J'en ai fait d'ailleurs. Je faisais des illustrations pour le plaisir à ce moment-là. J'avais pas des choses qui étaient des commandes ou des choses qui étaient prévues pour être publiées. Je dessinais chez moi. C'est naturel chez moi, voilà. Si un jour je suis en prison, je vais écrire beaucoup, je vais dessiner beaucoup.
Oui. C'est quelque chose qui vous permet de vous évader, la musique. Et bien justement, en parlant de Scherzando Express, on va parler de Scherzando Extra, mais juste avant, on va écouter Ouvre-moi, la chanson inédite du coup de cette EP qui est sortie le mois dernier.
Tel que tu me vois, en point de retenue. Cabane au fond des bois, pour une mise à nu, refuge des aveux, que l'on offre en cadeau à celle qui s'émeut, qui trouve les mots. Toutes ces portes enfouies en moi, tous ces verrous, tous ces cadenas, ouvre-les, ouvre-moi. Ouvre les persiennes, ouvre les rideaux, que je vois l'éolienne. Le soleil et les oiseaux, force la serrure de mon cercle fermé, mes pensées obscures, laisse-les s'échapper. Ouvre-moi, toutes ces portes enfouies en moi, tous ces verrous. Tous ces cadenas, ouvre-les, ouvre-moi. Je t'attends au salon, ouvre la porte-fenêtre, déverrouille mes émotions. Fais-moi renaître. Et si j'ai trop de serrures, si le temps nous est compté, défonce les murs de la chambre à coucher. Ouvre-moi, toutes ces portes enfouies en moi, tous ces verrous, tous ces cadenas, ouvre-les, ouvre-moi. Toutes ces portes enfouies en moi, tous ces verrous, tous ces cadenas, ouvre-les, ouvre-moi.
c'était Ouvre-moi, le titre inédit de Scherzando Extra.
RCN, les masques tombent, Elisa Gautron.
Alors du coup, un an plus tard, après la sortie de Scherzando Express, vous sortez Scherzando Extra, avec un titre inédit du coup dedans.
Oui, bah c'est des choses qui se font maintenant quand pour que comment dire l'album soit encore présent dans l'actualité, on rajoute des bonus comme ça pour redonner un coup de projecteur sur un disque qui a finalement que un an, et pas si vieux quoi. Donc j'avais ce morceau. Que j'avais enregistré lors des séances de Scherzando, l'album, qui me restait, et avec la maison de disques, on s'est dit, hein, pourquoi pas le sortir avec des remixes que m'avait proposé un ami, pour faire justement de l'actualité, en quelque sorte, sur l'album.
Oui.
Voilà.
Oui, du coup, vous avez une chanson inédite dans l'album, et trois remixes de Gus Gustafsson, du coup, votre ami.
Oui. Oui, mais je m'assais ça parce que c'est enfin quand je suis les artistes que je suis, j'aime bien qu'ils me proposent justement des petites surprises comme ça, parce que ça fait c'est un petit cadeau en quelque sorte. C'est pas voilà, c'est en plus c'est proposé en streaming, il n'y a pas à racheter l'album, on peut l'écouter comme ça, c'est pas de l'arnaque quoi.
Oui, c'était une surprise, un petit cadeau que vous vouliez faire à ceux qui vous écoutent.
Oui, c'est ça. Puis d'un coup, il y avait ça relevait aussi, enfin comment dire, ça corrigeait une espèce d'injustice de pourquoi on laisse une chanson de côté alors que bon, elle est là et comme je l'ai expliqué à la sortie de Scherzando Extra, en fait, c'est à cause des formats de des disques actuels quoi, comme les 33 tours est revenu à la mode, en quelque sorte, le temps de chansons qu'on peut mettre sur chaque face est très limité sur un 33 tours. On ne peut pas mettre plus de 20, 25 minutes sans risquer que la qualité soit atteinte. Voilà. Donc, ce qui fait que j'avais enregistré plus de chansons que prévu par rapport à ce que peut contenir un 33 tours. J'ai fait un choix, j'ai supprimé une chanson de la liste et c'était Ouvre-moi. Mais à l'époque, mon choix paraissait logique par rapport à une esthétique que je m'étais faite de mon album. Et puis les mois passant, ce choix il change et c'est souvent d'ailleurs le cas quand on fait un disque. En fait, le choix des chansons, même l'ordre des chansons dans un album, dépend en fait plus de la subjectivité du moment que d'un choix vraiment objectif. On se dit tiens, celle-là elle est bien, celle-là je l'aime, celle-là je l'aime pas, mais c'est juste un instantané du moment. Six mois plus tard, je pense différemment mes chansons. Voilà, donc c'était bien, ça a permis de corriger un peu cette injustice.
Oui. Et vous avez regretté un petit peu du coup de ne pas l'avoir mis sur le disque à la place d'une autre par exemple?
J'ai pas regretté sur le moment, c'est le temps passant. Quand on a eu cette idée avec ma maison de disques Atom de sortir des bonus et que j'ai réécouté la chanson, je me suis dit oh ben voilà, ce serait à faire. Je sortirais mon Scherzando Express aujourd'hui, cette chanson serait dans l'album et telle autre n'y serait pas. Mais c'est un jeu. Dans un an, peut-être que je penserai autrement encore, quoi. Surtout que j'espère que dans un an, j'aurais pu y penser, que je serais passé à autre chose. Voilà.
Oui, et du coup, c'est une chanson qui vous tient à cœur, Ouvre-moi, pour avoir voulu, du coup, ressortir un album avec des extras en soi.
J'aurais pas voulu qu'elle passe à l'as. Donc, c'était bien aussi de qu'il y ait cette opportunité de la faire connaître. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait de mon coffret qui est sorti en 2013 chez Universal, qui regroupait les albums studio de l'époque, et dans ce coffret, il y a énormément de morceaux inédits, parce que à chaque fois que je suis en studio, j'enregistre plus de chansons que qu'il va y en avoir sur l'album. Mm-hmm. Pour les raisons que je dis, pour des raisons que je choisis, ben voilà, dans l'album il y aura ça, pas celle-là, pour des raisons, je sais pas, sur le moment esthétique, quoi, que je les juge moins bonnes et tout. Et les années passant, ben mon avis passe, quoi. Mon avis change, je veux dire. Et je me souviens que pour ce coffret, notamment, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de mettre toutes ces chansons que le public ne connaît pas. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé avec un pratiquement, je ne sais plus, 20-30 chansons qui n'étaient jamais sorties.
Oui. Vous avez pas mal de chansons qui n'étaient pas sorties, du coup, pour lesquelles vous vous êtes dit, je vais les sortir, offrir quelque chose d'inédit, du coup, à ceux qui
l'écoutent. Oui, c'est ça, parce que ouais, sur le moment, comme je le disais, soit on les juge moins bonnes, soit on juge que ça fait trop de chansons aussi à mettre sur un album. Donc, moi, en particulier, je les mets de côté pour ces raisons-là. Voilà, et après, des fois, dans l'actualité, il se passe des choses qui fait que on leur rend justice en pouvant les sortir à ce moment-là, quoi.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview.
Bah, je vous remercie de m'avoir invité.
Et puis, on se retrouve demain pour les masques tombent.